Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mukashimukashi.audio.
Aujourd'hui dans Kawazofi, on s'envole pour la Turquie. À Istanbul, là d'où le café a pris son essor avant de se répandre sur le globe. J'ai rendez-vous avec Osman Serim, passionné de café et intarissable sur le sujet. Dans la première partie de cet entretien, Osman m'a délivré les secrets de la lecture dans le marc et il m'a raconté comment le café des Ottomans s'était répandu en France et en Italie au XVIIe siècle. Dans cette deuxième partie, place désormais à l'Autriche et à Vienne.
Alors, comme je vous ai dit, le café a été répandu dans des pays européens à partir de l'Empire ottoman, en temps de guerre ou en temps de paix, par culture, par commerce, etc. Les Ottomans, pendant leur histoire, ils ont encerclé la ville de Vienne deux fois. La deuxième fois, c'était en 1683, fin du XVIIe siècle. Une des tactiques de guerre des Ottomans, c'était qu'ils creusaient des tunnels envers les murs de la ville et ils estimaient plus ou moins la distance. Et quand ils arrivaient sous les murs, par en dessous, ils mettaient des explosifs dans des tonneaux, etc., des explosifs, et ils faisaient exploser les murs de la ville, ça descendait, et c'est par là qu'ils rentraient facilement en ville. Et ils utilisaient ça parce que la Serbie faisait partie de l'Ottoman et il y avait des mines d'argent très important en Serbie, alors ils connaissaient bien comment faire des tunnels, etc. Et ils ont commencé à faire ça bien. Et avant la fin, enfin, ça leur restait vraiment quelques mètres, des gens qui ont entendu des voix qui venaient de sous-sol. Des gens qui étaient assiégés à Vienne, ils ont entendu. Et qu'est-ce qui a entendu les voix qui venaient de sous-sol? Ce sont des gens qui travaillent la nuit. Et qu'est-ce qui travaille la nuit? Les boulangers. Puisque la nuit, les voix portent plus loin, ils ont entendu. Alors, d'abord, il y a eu une grande panique dans la ville, parce qu'à l'époque, les chrétiens, ils croyaient que le paradis, bien sûr, c'était dans le ciel, mais l'enfer, c'était sous le sol. Alors, en entendant des voix qui venaient du sous-sol, ils ont cru... parce qu'à l'époque, les Turcs, ils croyaient que c'était des démons, peut-être qu'ils le croient encore. Et ils ont dit, voilà, et les Turcs et les démons, ils viennent envahir les villes d'en dessous. Alors, les cloches des églises ont sonné, les gens pleuraient dans la rue, etc. C'est une panique. Mais après, en écoutant, ils ont réalisé, non, c'est des gens qui creusent des trous. Et ils ont creusé une petite arc comme ça. Ils ont pris l'eau de la Danube et ils ont noyé ces tunnels. Et les gens sont morts, bien sûr. Et peu de temps après, le roi Sobieski de Pologne, avec une armée qu'on pourrait définir de croisée, parce que c'était pas des vraies croisades, mais c'était une armée faite de plusieurs nations chrétiennes européennes, est venue encercler les Turcs. Les Autrichiens sont sortis du mur et les Turcs étaient pris entre deux feux et ils ont perdu la guerre. Et c'était la dernière limite de l'avancement ottoman en Europe. Après ça, quand la guerre a été perdue, bien sûr, les Ottomans, ils ont laissé pas mal de choses sur le terrain de la guerre. Ils ont reculé en panique. Et parmi ces choses-là qu'ils ont laissées sur le terrain de guerre, il y avait des sacs pleins de grains verts. C'est de le café. Mais c'était vert. Les Turcs, ils torréfiaient au fur et à mesure. Alors, ils croyaient que c'était la nourriture de chameaux, parce qu'ils n'avaient jamais vu de chameaux. Mais il y avait un Polonais qui a vécu à Istanbul en tant que prisonnier pendant plusieurs années et qui avait travaillé dans des cafés à Istanbul. Il savait ce que c'était. Et ce type-là, il s'appelle Kolchinski. Et si vous allez à Vienne, il a sa statue de Kolchinski. Et puisqu'il a vécu à Istanbul, il a servi un peu comme un espion peut-être, etc. Alors on lui devait une faveur. Et il a dit, non, ce n'est pas la nourriture pour les chameaux, donnez-le-moi. Et avec ça, il a ouvert le premier café à Vienne, et ce café s'appelait Zurblauenflasche, la bouteille bleue. Et là, habillé en ottoman, il a servi du café aux gens, aux Viennois. Mais les Viennois, c'était trop amer, ils n'ont pas trop aimé ça. Alors, il a eu l'idée d'ajouter du lait et du miel. Et ça donnait, encore aujourd'hui, Wiener Mélange. Wiener Mélange, c'est du café avec du lait et du miel. Et aujourd'hui encore, vous pouvez le voir. Et c'est devenu extrêmement populaire. Et les boulangers, qui ont sauvé la ville d'une certaine façon, ils ont fait quelque chose en forme de croissant. Parce que sur le drapeau ottoman, il y avait 3 croissants de lune. Parce que les Ottomans, ils ont régné sur 3 continents, comme l'Empire romain, l'Europe, l'Asie et l'Afrique, avec 3 croissants. Alors, ils étaient inspirés par ça, et ils ont cuit sucrerie comme ça, en forme de croissant. Et qu'est-ce que c'est devenu ? C'est devenu le croissant. Croissant.
Le fameux croissant qu'on dit français.
Qu'on dit français ? Non. Parce qu'en France, on ne dit pas que c'est français, on dit que c'est une viennoiserie. Et qu'est-ce qui l'a amené ça à Paris ? Qui ?
Alors là, Marie-Antoinette.
Pourquoi ? Parce que Marie-Antoinette, la femme, bien sûr, de Louis XVI, c'était une princesse de Habsbourg. Alors, c'est une Autrichienne. Alors, bon, c'est une petite anecdote. Et comme ça, les cafés, encore aujourd'hui, sont extrêmement populaires en Autriche. Et en Angleterre, plusieurs choses sont passées dans le café. Par exemple, la Bourse de Londres, la première bourse du monde, a été créée dans une café house. Le Lloyd's Insurance Company, ça a été créé dans une café house. L'idée de Commonwealth a été créée dans une café house, etc., etc. Et le roi Charles II, en 1652, il a interdit les café house à Londres parce que les femmes, elles ont signé une pétition en disant que si ça continuait comme ça, Charles II ne va plus avoir une armée parce qu'il ne va plus avoir une nouvelle génération des enfants qui vont être nés parce que les hommes ne retournaient pas à la maison. Après le travail, ils allaient dans le coffee shop. Et Charles II a interdit pendant 2 ans. Mais il y a eu une telle pression qu'il a dû laisser ça libre. Les femmes font ça comme ça. Si elles voient que les hommes passent du temps sans leur présence, elles vont faire quelque chose pour l'empêcher.
À partir de là, on peut se dire d'une que le café est hautement sociabilisant, il sert à la société et aux rencontres, qu'il stimule l'esprit, puisqu'on a vu une création de grandes multinationales, d'organisations qui sont encore en place et qui sont influentes dans le monde, et même qu'il peut être subversif, le café.
Subversif, non, mais disons que ça vous rend plus alerte. Et les gens buvant du café, ils pouvaient parler jusqu'à des heures très avancés dans la nuit, etc. Parler pendant des heures, ils restaient éveillés, ils restaient encore très actifs, etc. Et bien sûr, de là naissaient des idées révolutionnaires, politiques. C'était pas subversif, mais c'était politique, c'était intellectuel, etc. Mais à l'époque, bien sûr, les monarques, ils n'aimaient pas trop ça.
On va revenir à vous. Vous êtes devenu spécialiste par amour du café.
Exactement. Moi, je suis conseiller en hôtellerie et restauration tout niveau, aussi bien en Turquie qu'à l'étranger, etc. Alors le café, pour moi, bien sûr, c'est un élément important, mais je n'ai jamais professionnellement été dans le café. Mais c'est par pur amour culturel, je dirais. J'ai raconté l'histoire du café turc dans 43 pays au monde. Et je continue à voyager, à raconter l'histoire du café turc partout dans le monde. Et disons, en 2008, on a eu l'idée de créer une association du café turc parce qu'on croyait à l'époque, c'était avant les machines, que le café turc reculait en faveur des méthodes italiennes, ceci, cela, etc. Alors on a créé cette association, on a dit il faut faire quelque chose pour le café turc. Et on a fait des conférences, des activités, on a fait imprimer 6 livres qu'on a financés nous-mêmes. Et en 2013, on a fait une demande à l'UNESCO, on a présenté un dossier pour que le café turc et la culture du café turc soient considérés. On a fait une demande pour la liste immatérielle de culture. Et UNESCO a accepté notre dossier. Et pour cela, on s'est associé avec le ministre de la Culture. Quelques années avant nous, je crois en 2010 ou 2011, la cuisine française a été aussi acceptée comme patrimoine mondial, etc. C'est la même méthode. Et nous, en faisant ça, le café turc a été la première boisson culturelle qui a été retenue par UNESCO comme patrimoine culturel mondial. Et seulement l'année dernière, en 2018, que la bière belge a été admise sur cette liste. Par exemple, le whisky écossais, le vin français, et le saké japonais, etc. Tout ça, un jour, ça va être sur cette liste. Mais le café turc a été le premier, boisson culturelle retenue sur cette liste.
Oui, parce que quand même, avant d'avoir des méthodes d'espresso, italien, tout ça, avant le café, on le préparait comme ça.
La toute première méthode pour faire du café, certainement, c'est une méthode à l'arabe et qui s'appelle mirra. Mirra, c'est la façon arabe. Et alors, ça fait dans des grands récipients et la méthodologie est différente. Et ils font bouillir ça pendant très longtemps, etc., etc. Alors, certainement, quand c'est venu à Istanbul, c'est venu comme ça. Mais à Istanbul, le modus operandi a été changé. On a commencé à le faire comme on le fait maintenant. Et ça n'a pas bougé depuis 500 ans passés. On le fait comme ça. Et on a développé ces petits récipients où on fait une café ou deux à la fois. Et on peut appeler ça méthode turque. Le café turc, c'est ça. Et depuis, on continue à le faire de la même façon. Et ils ont copié méthode turque. C'est surtout au XVIIe siècle qu'il s'est répandu en Europe. Ils faisaient du café à la turque. Mais à partir du XVIIIe siècle, ils ont commencé à différencier les méthodes pour faire du café. Ils ont par exemple commencé à filtrer le marc de café. Et beaucoup plus tard, les Italiens ont d'abord fait le moka pot et après la machine au début du XXe siècle. Et le café turc a reculé. Il y a 3 milliards d'oses de café servies par jour dans le monde. 3 milliards. Et ça augmente. De ces 3 milliards d'oses, disons que la méthode la plus répandue, c'est le café filtre. Un café sur 5 au monde, 600 millions d'oses par jour, est fait à l'italien, avec des machines à expresso ou bien des mocapotes. Et un café sur 200, c'est fait avec les méthodes turques. Un café sur 200. Un sur 5 pour les Italiens, un sur 200, café à la turque. Mais quand je dis café à la turque, où est-ce qu'on le fait? Pas seulement en Turquie. Les Balkans, y compris la Grèce, en Crimée, en Azerbaïdjan, la Géorgie, etc., les Caucases, et puis dans le Moyen-Orient, mais surtout en Syrie, Liban, Jordanie, l'Irak, etc. Et alors là, il y a 200 millions de personnes qui vivent dans cette géographie. Et le café turc est surtout apprécié par eux. Par exemple, Starbucks a un projet maintenant. Ils ont déjà commencé en Moyen-Orient. Ils vont commencer dans 5 ans qui suivent, essayer de servir du café dans tous les Starbucks au monde.
Alors à Paris, je pourrais boire du café turc chez Starbucks.
À la Turquie, oui. Ils ont déjà commencé. Ils servent ça dans 5 pays, peut-être un peu plus maintenant. Au fur et à mesure, ils vont avancer. En France, pas encore. Tout ça, sont soit des café shops. Regardez, ils vendent des moules ambulants. Voilà, ce sont des bars. Hello. Sur les rues.
Et dans les maisons turques, dans les foyers, quel café on trouve majoritairement?
Dans toutes les maisons turques, vous aurez le matériel, le café turc, ça existe dans toutes les maisons turques, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, il y a des machines et toutes les méthodes qui existent pour le café à l'international également. De toute façon, regardez.
Tiens, là, on s'arrête.
Vous voyez?
Là, il y a un café qui est en train d'être fait dans le sable et ils utilisent le Mehmet Efendi. Est-ce que vous pouvez me parler de cette marque de Mehmet Efendi?
Efendi, ça veut dire Monsieur le Respectable. on l'appelait Mehmet Efendi, mais avec leur surnom de famille qui était Kurukaveci. Kurukaveci, monsieur Kurukaveci, c'est monsieur le marchand de café respectable, que ça voulait dire. Parce que avant 1920, 1924, je crois, disons qu'il n'y avait pas de nom. Les gens étaient appelés par leur prénom et chaque famille avait un surnom souvent relié à la profession de la famille. Par exemple, si vous venez d'une famille de bouchers, on vous aurait appelé Ali Untel, fils de boucher. C'est en 1924 qu'ils ont adopté, ils ont passé une loi pour que tout le monde ait un nom en plus de son surnom. Alors voilà, c'est Kurukaveci, c'est le plus grand marque du café turc. Ils importent leur café eux-mêmes, ils font leur blend. Et ils ont réussi, il y a une vingtaine d'années, à être les premiers à mettre ça dans des pots en vidant l'air sous vide. Parce que, bon, le café turc, qu'est-ce que c'est? Le café turc, c'est une méthode. C'est une modus operandi. Qu'est-ce qui fait la différence du café turc par rapport aux autres façons de préparer le café? D'abord, c'est l'origine. En principe, c'est 100% arabica. D'un. De deux, la torréfaction doit être medium roast. Medium roast, c'est-à-dire pas trop torréfié. D'ailleurs, quand vous dites marron en France, nous on dit kahverengi, la couleur du café. Ok. Ça, c'est très important. Le café turc ne doit jamais être trop torréfié. Troisième point, c'est la moulure. Alors là, c'est très critique. Le café turc est beaucoup plus fin que l'espresso. C'est entre 80 et 110 microns d'épaisseur. Et comment est-ce que vous vérifiez manuellement si c'est bon moulure ou pas? Vous prenez ça entre deux doigts. Vous ne devez pas sentir les grains. Okay? Ça doit être comme la farine. C'est-à-dire que c'est extrêmement moulu, extrêmement finement. Mais attention, on a un problème là. Imaginez un moulin au poivre là, ça sent très bon, ok? Mais cette odeur disparaît très rapidement. C'est comme le café. Quand vous moulez le café si finement, au départ c'est excellent les arômes, mais ça disparaît très rapidement. Ça s'oxyde. Alors, qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose d'acheter le café moulu commercialement. Mais attention, ça s'oxyde tellement rapidement quand c'est moulu si finement que dans une heure déjà, dans une heure ou deux, c'est trop tard. Alors, pour cette raison, on ne pouvait pas, exporter le café turc en tant que café turc ou bien même garder ça chez soi très longtemps parce que ça s'oxydait très, très rapidement. Alors, on marche vers Moda. Ici aussi, il y a encore beaucoup de cafés, et des gens qui se promènent dans la rue, etc. Vous voyez, c'est un peu changé.
Istanbul est une ville artistique.
Il y a tout. Vous trouvez une façon de vivre à l'islamique, vous trouvez des gens qui vivent comme en Europe. Vous avez tout à Istanbul.
La croisée des chemins.
Voilà, exactement. Mais ça a toujours été comme ça. Istanbul, c'était toujours le carrefour des civilisations, quoi. Enfin, c'était du temps d'Ottoman aussi. Il y avait toute une partie de la ville qui était et la partie chrétienne de la ville. Attendez, je vais vous montrer quelque chose.
Oui.
Que vous allez... Ça vous étonnerait peut-être là. Le dogme chrétien a été formé avec des réunions au plus haut niveau qui s'appelaient des conciles. Vous avez entendu parler de conciles. Okay. Alors, dans l'histoire chrétienne, il y a eu une trentaine de conciles. Et parmi ces trentaine de conciles... Attendez.
On va en parler.
Il y a le kameram, şurada bu yabancı bir muhabir. Şu şeyi Ayazma'yı bir götüreceğim.
Tamam.
Ondan sonra çıkacağım. Bugün lokantaya gelmedik. Les conciles qui étaient acceptés par toutes les croyances chrétiennes sont au nom de 8. Après, il y a certains conciles qui sont acceptés par les catholiques, d'autres par les orthodoxes, etc., etc. Et ces 8 conciles ont pris place sur ce qu'on appelle la Turquie d'aujourd'hui. Et parmi ces 8 conciles, les 4 premiers sont les plus importants. Le premier, c'est le concile d'Istanbul, c'est-à-dire Constantinople. Deuxième, c'est le concile d'Éphèse. Troisième, c'est le concile de Nicée, qui n'est pas loin d'Istanbul. Et le quatrième, c'est le concile de Chalcédoine. Chalcédoine, c'est Kadıköy. Et le concile s'est réuni au fond de cette baie, dans une église qui, à l'époque, une cathédrale, une église, qui n'existe plus, mais à la place, il y a une autre église. Et c'était conçu sur les ruines, qui s'appelait Hagia Euphémia. Hagia, Sainte Euphémie. Et c'est là que le quatrième concile chrétien a été. Plusieurs jours, comme ça, peut-être plusieurs semaines, ils sont réunis là-bas. Et Jésus, en tant que Dieu et homme, a été décidé ici, dans cette baie. Vous vous rendez compte comme c'est important dans l'histoire de la chrétienté? Eh bien, c'est dans cette baie que c'était fait.
Ça a été scellé. Et là, on est où ici? On est rentré dans un restaurant, on a descendu quelques marches et on est dans une petite pièce avec des étagères et des effigies.
Et c'est orthodoxe. À la place, il y avait une église à l'époque. Et aujourd'hui encore, vous pouvez faire votre prière et comme ça, regarder les objets.
Qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Qu'est-ce qu'on peut voir?
Oui, c'est un saint, je crois que c'est Jésus, et puis on le conserve, et il y a des orthodoxes qui viennent faire leur prière ici. Allez, c'est un vœu, mais il ne faut pas dire le vœu. Hein. Pour avoir une meilleure vue, on peut rentrer au club, il y a un club privé. Je vais juste vous amener là-bas, 2 minutes.
Oui.
Merhaba, nasılsınız?
Nasılsınız?
Bir röportaj yapıyor,
tamam.
Onu bir şeye kadar getireceğim.
Tamam efendim.
Merhaba, nasılsınız?
Osman Bey, hoş geldiniz.
Merhaba.
Merhaba, hoş geldiniz.
On a 7 îles. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur les îles. Il faut y aller sur les îles. Il y a 7 îles. Et puis, bon, on est en Anatolie, c'est la côte anatolienne, et c'est cette baie où il y a eu le concile chrétien, au fond de cette baie. Et ici, c'est traditionnellement, c'est appelé la Chalcédoine. Chalcédoine. Kadıköy, c'est Chalcédoine.
D'accord. Un beau ciel là-bas, de ce côté. C'est très joli.
Mais vous savez, Istanbul, ça vous réserve des surprises. Vous allez dans une rue comme ça, qui n'a l'air de rien, et vous montez à la terrasse, et vous avez une vue extraordinaire. Et vous allez dans un endroit... Écoutez, il y a des gens... Par exemple, ma femme habite ici depuis 35 ans. Il y a des endroits qu'elle n'a jamais vus. C'est tellement grand, c'est énorme.
On est sur une promenade, le long de la mer Marmara.
Alors là, la Corne d'Or... Et c'est le Bosphore, c'est l'entrée du Bosphore, c'est les pointes du Serail, Topkapı, et la Corne d'Or se trouve derrière.
On a un dégradé de couleurs, du rose jusqu'au bleu indigo, et c'est absolument magnifique.
Et voilà, c'est Istanbul by night, quoi.
C'est la fin de cet épisode spécial à Istanbul. Rendez-vous sur Twitter, Facebook et Instagram, @kawazofipodcast.
Mukashi.audio